Vous écoutez
RMC.
RMC.
Aïe, 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 oui, oui. J'ai parlé français.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno. Ben Vindo.
Ça va bien, tout. Ah, bonjour, la maison. Parti.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Hola viva les amis, soyez les bienvenus dans l'After, nous sommes ensemble pendant deux heures de bonheur jusqu'à minuit. Oui, le compte est bon, ce soir au menu, le confinement qui se poursuit, la FIFA qui réfléchit à des solutions, alors décaler, prolonger le mercato, créer un fonds d'aide, réguler la baisse des salaires. On va revenir en détail sur ces propositions avec Vincent Chaudel qui était économiste du sport, Michel Hidalgo qui nous a quitté hier, lui qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France en 84. Question qu'on vous pose, tiens, on attend vos réponses au 32-16 sur le hashtag RMC Live et aussi sur l'application Direct Studio. Quelle équipe de France vous a le plus fait vibrer et à l'inverse, laquelle vous a le plus déçu? Et puis, une de vos propositions sur le hashtag Mon After, vous le savez, pendant cette période de confinement, eh bien, c'est aussi vous qui faites le programme de cet After. Et puis, on a une proposition, tiens, pourquoi ne pas demander à vos drôles de dames de nous parler de derby méconnus dans leur pays? Eh bien, ce sera le cas à partir de 23h dans cet After avec nos drôles de dames qui seront là, Simone, Julien, Polo et Fredo, bien sûr. Et puis, le quiz, inscrivez-vous d'ores et déjà au 32-16. Ce soir avec nous, pour vivre cet after, Lionel Charbonnier. Bonsoir Lionel.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Comment il va?
Bon, écoute, ça va. On survit, on reste à la maison, on essaie de sauver les vies comme ça.
Ouais, c'est pas mal déjà. Jérôme Rotten également est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Nico, salut à tous.
T'es toujours
salut
avec ton Lionel, chien
salut
ou pas?
Jay. Ouais, il est là, il est à côté, il a pris ses habitudes, et ça y est. Hein.
Comment il s'appelle d'ailleurs?
Golf.
Ah oui, pourquoi?
Parce que c'est mon fils qui jouait au golf à l'époque, il était petit et voilà, il a voulu l'appeler golf.
Bah, écoute, ok, pourquoi pas.
Il porte bien son prénom.
Ça marche. Willy Sagnol ouais. Également est avec nous. Salut Willy.
Salut Nico, salut à tous.
C'est quoi l'animal de compagnie oui. qui t'accompagne ce soir?
Moi, comme d'habitude, c'est mon Labrador.
À toi aussi?
Oui.
C'est quoi? Comment il s'appelle toi?
Voogie.
Voogie, pourquoi?
Parce que on a un ami proche qui s'appelle allemand, qui s'appelle Wolfgang, et son surnom c'est Woogie, et on trouvait que c'était un joli nom, voilà.
Ok. T'as un chien ou pas, Lionel? Je t'ai pas demandé, c'est important.
J'en ai deux, ouais, deux rottes.
Ah, comment ils s'appellent?
Jaya et Tuta. Tuta, c'est le dernier arrivé. On l'a pris dans un refuge.
D'accord.
Voilà. Jaya, on l'a eu toute petite.
Bravo Lionel.
Bravo Lionel. Ouais.
C'est ma femme qui a voulu. Elle a eu raison.
Bon, là, la journée a été bonne ou pas, messieurs?
Bon, écoute...
Visiblement, ça a été génial, ouais. Bon, on va essayer de
l'aiguiller. On a fait un marathon, quoi.
Vous emmerdez
on
pas.
On a pas fait un marathon.
Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, vous pouvez courir sur un tapis, un truc comme ça. Tiens, une petite idée sur le hashtag Mon After. C'est une idée du Mexicain, grand fidèle d'ailleurs de l'After. Tiens, petite question sympa. J'attends vos réponses sur le hashtag RMC Live pour y répondre. Avec quel journaliste ou intervenant de chez RMC auriez-vous aimé rester confiné et pourquoi? J'aimerais que vous répondiez à cette question avant qu'on débute cet After. Willy, commence. Avec qui t'aurais aimé être confiné pendant cette période? Quelqu'un d'RMC?
Moi, j'aurais aimé avec Jean-Louis Tour.
D'accord.
Parce que c'est sûr qu'on aurait bien bouffé ensemble.
Ouais, t'aurais pu eu grand-chose sur dos, c'est ça le problème. Mais...
Ah non, t'inquiète pas. T'inquiète, je suis un requin, moi, quand il y a l'assiette. Mais on aurait bien mangé, puis je pense qu'on aurait bien rigolé. Ouais.
Jérôme?
À RMC?
Ouais.
Bah, à la radio, partout.
N'importe ce que tu veux, télé, radio, une grande famille.
On sait rien.
Ah, visiblement, il y a t'as l'embarras du choix.
Bah ouais, j'ai l'embarras du choix. Mais alors, les consultants ou journalistes, on se voit assez, je trouve, pour passer notre temps.
C'est là qu'on voit la vraie nature des gens.
Mais non, franchement, comme ça, tu me prends de court. Demande à Lionel.
Lionel, vas-y, pendant qu'il réfléchit.
Bah, moi, j'aurais pris Jérôme.
Ah bah ouais. Bah voilà Jérôme, la réponse est là, c'est parfait.
Moi j'aurais pris Jérôme, tu vois, pour qu'il s'améliore un petit peu avec son pied gauche, ouais, en faisant même quelques coups francs.
Voilà, cherche même pas Jérôme, la réponse est là, c'était Lionel. Tiens, on vous rappelle
avec Lionel, moi il y aurait pas eu de problème parce que je serais allé chez lui avec les chevaux, j'adore ça.
Eh bah c'est parfait.
Voilà, je me serais régalé.
C'est parfait. Tiens, on vous rappelle que face à l'épidémie de Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous lançons un appel aux dons ensemble avec les acteurs du sport. Soutenons la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour donner et aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr, envoyez don, D-O-N, par SMS au 92-111 pour donner 5 euros. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'RMC sur le hashtag solidarité hôpitaux. On rappelle, on va débuter cet after avec l'un des sujets du jour, plutôt intéressant d'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions déjà sur le compte Twitter de l'after, les championnats qui sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre, les instances qui cogitent déjà sur l'après, info qui nous vient du New York Times qui dévoile les pistes de réflexion menées par la FIFA. On va les analyser avec Vincent Chaudel qui est économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous Vincent. Ça va Vincent ?
Très bien, très très bien.
Comment se passe la période de confinement, bonsoir Vincent.
Bonsoir à tous. Confiné effectivement sans les chiens, mais confiné quand même.
Avec l'after.
Mais avec l'after, effectivement. On tournait un peu tous en rond. Je sais qu'hier, Michel Hidalgo nous a quittés. On a eu l'occasion de regarder, il n'y a pas très longtemps, France-Séville. France-Allemagne-Séville. France-Allemagne à Séville et puis France-Espagne aussi. Ça fait voyager dans le temps.
C'est vrai. Alors, on va parler avec vous ce soir, Vincent, puisque vous êtes économiste du sport, de plusieurs angles de réflexion qui ont été développés par la FIFA et également les autres partenaires économiques et sociaux du foot. Alors, on va d'abord parler du mercato. Alors, on pourrait s'acheminer vers un mercato estival décalé, la FIFA qui pourrait laisser les ligues européennes au niveau des dates du mercato. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet d'abord?
En fait, le mercato, c'est un moment très important parce que c'est un moment de redistribution entre les économies, entre les pays ou les clubs riches et les autres. C'est-à-dire que c'est un moment où on sait que le pouvoir économique est en Europe, mais c'est un moment où l'argent peut partir de l'Europe pour aller irriguer les clubs d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'autres pays européens moins développés. Donc on critique beaucoup le marché des transferts, on critique beaucoup les agents, mais c'est aussi un mécanisme de redistribution. Alors nous on le sait en France parce que ça fait très très longtemps, et puisque Lionel est là, le modèle c'était Auxerre. Ça fait très longtemps que on a le trading du joueur, c'est-à-dire le marché, hein, le fait de vendre des talents. Et d'ailleurs, on appelle la Ligue 1, elle veut s'appeler la Ligue des Talents. Ça fait très longtemps que on va chercher sur cette activité l'argent qu'on n'avait pas nécessairement sur d'autres secteurs comme les droits télé ou le sponsoring. Donc, en général, la balance des transferts des clubs français est positive. L'année dernière, sur l'exercice précédent, c'est quelques 300 millions d'euros, un peu moins, que les clubs français ont pu récupérer sur ce marché. Donc là, c'est quelque chose de très important. Sauf que, en général, un mercato, c'est juin, juillet, août. Ça se termine à fin août, en général.
Ouais, c'est 12 semaines, à peu près.
Oui, juste avant le début de la compétition européenne. Le seul problème là, c'est que la période estivale, on est en train de la vivre. La période où on joue pas, c'est le moment, c'est actuellement, et il va falloir essayer de jouer jusqu'au bout dès qu'on va pouvoir sortir du confinement. Et donc, on risque d'avoir un mercato très court. Et un mercato très court, pardon, ça veut dire probablement moins de mouvements. Ouais. C'est d'ailleurs ce que la Première Ligue a essayé de faire l'été dernier. Elle a réduit la période de transfert et ça a eu un impact sur les dépenses des clubs anglais qui ont été moins importants que les années précédentes. Ouais.
Alors d'ailleurs, finir, pour être complet, Jérôme, je te laisse la main. Il y a une autre hypothèse qui est avancée par l'équipe également sur les possibles dates du mercato. Alors c'est encore à l'étude, on le rappelle, hein. Il y a le New York Times qui a dévoilé un certain nombre d'informations. La FIFA qui pourra accepter de débuter le mercato à l'issue de chaque championnat. Donc ça va être décalé, hein, différé selon l'évolution du virus et de la pandémie. Et le laisser ouvert peut-être jusqu'au 31 décembre. Donc on pourrait vraiment avoir un gros mercato qui se poursuit. Jérôme, t'allais dire?
Oui, non, mais j'allais dire que déjà un mercato court, bien sûr que là on part dans, on raconte deux choses, on essaye
de.
Ouais, c'est et moi c'est ce qui me dérange le plus, c'est toutes ces hypothèses, toutes ces tout ce qu'on essaye de mettre en place, les décisions qui sont prises. Là déjà, tu vois que l'euro a été, les dates ont été arrêtées. Pourquoi l'euro, la seule compétition aujourd'hui, c'est la seule où les dates ont déjà été arrêtées. On ne sait pas combien de temps ça va durer ce confinement, quand les championnats vont pouvoir reprendre, quand ils vont se finir, si certains se finissent, parce que ça se trouve certains ne se finiront pas, voire la plupart. Après, oui,
on est obligé d'anticiper, Jérôme.
Mais oui, mais tu peux pas anticiper aussi vite, c'est pas possible. Il faut faire, malheureusement, c'est au jour le jour. Alors après, moi, toutes ces hypothèses, moi, je veux bien. Mais alors, dans ces cas-là, sans parler d'hypothèses, le mercato, quoi qu'il advienne de notre championnat, qui se finisse mi-juillet, fin juillet, fin août, fin septembre, le mercato, si pour l'instant rien ne change, il sera ouvert à partir du 30 juin, je crois. Non, c'est quoi,
c'est le non, c'est à la fin du championnat. Ils attendraient la fin du championnat justement.
Juillet, non?
Oui, mais
enfin, si c'est en juillet, ça, on verra.
Oui, mais le règlement, c'est pas le mercato débute à la fin, à la fin du championnat. Non, on est d'accord.
Normalement, il commence le 1er juin et cette année,
et bah ouais,
le 31 août.
Donc à la fin du championnat.
Oui, c'est ça. Mais
non, ouais, mais dans le même temps, Jérôme, la FIFA réfléchit aussi à prolonger les contrats jusqu'à la fin du championnat.
Voilà, ça c'est autre chose. On va y revenir. Ça, on va y revenir. C'est encore.
Ouais, mais tu peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Il va falloir que les deux, comme Jérôme dit, il faut que les deux s'imbriquent. Sinon, ça va être un.
Alors justement, si tu veux, on peut en parler maintenant avec Vincent Chaudel. C'est vrai que il y a la question des joueurs qui sont en fin de contrat au 30 juin. Et là aussi, la FIFA est en train de réfléchir à une hypothèse. C'est que les contrats des joueurs qui arrivent à échéance le 30 juin soient prolongés automatiquement jusqu'à la fin du championnat, qui le concerne finalement.
Oui, mais la FIFA, elle réfléchit à des choses qu'elle ne maîtrise pas elle-même. Mmh. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, de ce que ça vient de New York aux États-Unis, la NBA peut fixer des règles à ses franchises par rapport aux contrats qu'elles vont signer avec leurs joueurs. Là, la FIFA, elle n'a pas la main sur les contrats des joueurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des clubs qui sont des employeurs, qui ont signé des contrats avec des joueurs sur des périodes données, elle n'a pas la main sur le fait que les contrats doivent changer, doivent être prolongés. Effectivement, les contrats sont signés pour des saisons qui vont en général du 1er juillet au 30 juin. Et donc, il y a déjà, en fonction de la période où on va repartir pour reprendre l'entraînement et les matchs, la question va être de savoir quand est-ce qu'on peut terminer le championnat. Si on termine le 30 juin, les contrats actuels sont bons. Si on doit terminer mi-juillet, il y a déjà des négociations à entreprendre. Parce qu'on est quand même sur des contrats de travail. Et c'est pas la FIFA qui émet ces contrats-là. Donc, là où Jérôme a raison, c'est-à-dire que on est en train de parler de choses que l'on ne maîtrise pas. Donc, on est obligé de faire plusieurs scénarios. Il y a une chose dont on est sûr, effectivement, c'est la date de l'euro. Et ça, c'était très important pour donner une respiration au championnat, parce que tous les championnats veulent se terminer dans le football, surtout dans le football, parce qu'on a entendu là dernièrement que certains championnats dans différents sports, que ce soit le volley, le handball ou le basket dans certains pays ou le rugby, pouvaient dire bon tant pis, on arrête et on repartira la saison prochaine. Ils peuvent arrêter entre guillemets parce que les droits télé sont pas très importants. Quand les droits télé pèsent
Alors on va y revenir sur la problématique des droits de télé dans un instant, Vincent Chaudel.
C'est très important.
Oui, on va y revenir. Juste, j'aimerais entendre Willy là-dessus sur l'histoire du mercato. Toi qui as été entraîneur et qui a connu ces périodes-là, alors c'est toujours très contrariant en plus pour les entraîneurs de voir le mercato ouvert alors que le championnat a commencé. D'ailleurs, Vincent, vous le rappeliez il y a quelques instants, les Anglais avaient décidé cette saison d'arrêter le mercato au moment où le championnat débutait justement.
Si je peux me permettre juste une chose, oui, par rapport à ça. C'est l'hypothèse de la FIFA de prolonger le mercato jusqu'au 31 décembre. Personnellement, j'y crois pas, dans le sens où Les mercatos, ce qui est très important, c'est qu'ils s'arrêtent avant le début des compétitions européennes, du moins avant la phase de poule. Et le 31 et l'UEFA a aussi des contrats très importants avec ses diffuseurs, ses partenaires. Donc, elle va faire tout ce qu'elle peut pour que la Champions League de l'année prochaine commence et se place correctement. Or, comme l'euro est déjà fixé, on sait qu'il va falloir finir toutes les compétitions de clubs à fin mai 2021.
Ok.
Et donc, il n'y aura pas beaucoup d'autres options que de commencer la Champions League autour de mi-septembre, peut-être fin septembre. Mmh. Et donc, le mercato, on ne va pas permettre à des joueurs qui commencent la Champions League avec un club de changer pendant la phase de poule. Déjà qu'on a permis cette année de changer entre la phase de poule et les huitièmes, ce qui était déjà une exception. Ouais. Ça risque d'être encore plus compliqué là.
Willy, ton avis toi là-dessus sur la période du mercato?
Et mon avis, je me rapproche quand même beaucoup de Jérôme en disant que ça sert à rien de toute façon d'établir des scénarios, parce que quand on établit un scénario, c'est-à-dire qu'on part de choses concrètes. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret parce que aujourd'hui, tous les pays. Alors, si on va sortir un peu du spectre football, on va se placer dans le spectre un peu sanitaire. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les pays ne sont pas, on va dire, confrontés à l'épidémie de la même façon. Certains pays sont plus en avance que d'autres. Il y a un décalage. Oui, donc, de toute façon, moi, ça ressemble à une cacophonie. J'ai l'impression que voilà, il faut envoyer des informations pour que les gens ils soient un petit peu rassurés ou qu'ils continuent à penser football, à nos annonceurs parce qu'on veut signer encore des contrats pour telle ou telle chose. C'est aujourd'hui, de toute façon, avant, je dirais, enfin, et encore, c'est dans mes espérances les plus fortes, mais avant le 1er juillet, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir commencer à faire des plans. Parce que aujourd'hui, tu te rends compte que tu sais pas ce qui va se passer dans une semaine, tu sais pas ce qui va se passer dans 15 jours. Comment tu peux savoir ce qui va se passer dans 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois? Après, on va prendre des données peut-être extrêmes, mais qui vous dit que dans 5 mois, on sera pas toujours dans la même situation qu'aujourd'hui?
Eh ouais.
Ah oui. Bah regardez d'ailleurs en Chine, ils pensaient reprendre le championnat et finalement ils ont été obligés de repousser.
Et c'est vrai. Et oui, il y a raison. Et c'est pour ça, moi je te dis, avoir bloqué la date de l'euro, pour moi c'est une énorme connerie. Parce que les JO ont été décalés, mais les JO on n'a pas encore de date. On est d'accord. Et ben, l'euro ils ont bloqué. Et si jamais ça
bouge, ils pourront le bouger si jamais ça pose problème encore.
Ils
seront obligés de s'adapter.
Je pense que comme ça, c'est un petit peu une guéguerre entre la FIFA, l'UEFA et les compétitions, les différentes compétitions, et que là, on a dit, nous, on dégaine en premier l'euro, c'est telle date.
Ouais, maintenant, le reste,
vous vous démerdez.
On continue de débattre sur ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à nos membres de la Dream Team ou à Vincent Chaudet, l'économiste du sport, vous nous appelez au 32-16. Dans quelques instants, Vincent, avec vous, on va parler. Alors, puisque vous le disiez, c'est vrai qu'il y a des choses que la FIFA ne maîtrise pas, et notamment la question de la baisse des salaires, puisque la FIFA aimerait également normaliser sur ce sujet. Et puis la FIFA qui songe également à créer un fonds d'aide, de soutien pour le football. Voilà, Vincent nous explique ça. Dans quelques instants, on vous attend au 32-16. À tout.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Lionel Charbonnier, de Jérôme Rotten, de Willy Sagnol, Vincent Chaudet, économiste du sport, est également avec nous. Alors, on parle des propositions de la FIFA, du moins sur les possibilités qu'ils envisagent pour la reprise des championnats également. Alors, Vincent, on était en train de parler de pas mal de propositions de la FIFA, du moins des idées. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, la FIFA qui finalement ne peut pas décider tout, il y a un autre thème qui pose beaucoup de soucis dans pas mal de pays, c'est celle des salaires. Alors, il y a pas mal de clubs qui ont décidé de couper une partie des salaires de leurs joueurs. Et la FIFA qui aimerait aussi une solution qui est normalisée et commune pour tous. Sauf que ça paraît difficile de mettre ça en place, étant donné que ça dépend de la législation de chaque pays, non ?
Un, ça dépend de la législation de chaque pays. Deux, ça dépend des employeurs. Et encore une fois, la FIFA n'a pas la main sur les employeurs. Ce n'est pas la NBA. C'est-à-dire que si au niveau de la NBA, tout le monde se met autour de la table et on décide d'un ce qu'on appelle un salary cap, c'est-à-dire d'un plafonnement de la masse salariale, ça c'est possible. Mais aujourd'hui, le football, il est surpuissant au niveau de son économie, c'est une chose, mais c'est une économie qui est morcelée. C'est-à-dire que il y a des compétitions entre les clubs entre eux, Il y a des compétitions entre les ligues entre elles, il y a des compétitions entre les confédérations. Je ne sais plus si c'était Lydie ou Jérôme qui disait que ça ressemble à une guerre entre la FIFA et l'UEFA. Évidemment que c'est ça. Il y a une guerre entre la FIFA et l'UEFA, il y a une guerre entre l'UEFA et Lydie, et notamment la Première Ligue, et puis après il y a une guerre aussi avec les clubs qui sont surpuissants, et donc on se demande si à un moment donné ils vont pas vouloir faire une ligue dans leur coin tout seul. Et tout ça, il y a des rapports de force qui s'opèrent, et chacun essaye de dire, mais en fait c'est moi le patron. Mais la FIFA, au niveau des salaires, c'est une déclaration d'intention. L'employeur aujourd'hui, alors il y a Agnelli et Nasser El Khelaifi et puis Barcelone aussi qui ont évoqué le fait de réduire les salaires des joueurs. Tant que eux ne se mettent pas d'accord entre eux, c'est un vœu pieux, parce que dire à un joueur s'il te plaît, diminue ton salaire de 10% quand d'autres clubs sont prêts à le signer pour plus 10 ou plus 20, bah, ils n'y arriveront pas. Donc ouais. le vrai sujet, c'est de dire il faut qu'à un moment donné, et ça c'est la force du sport américain, c'est que les employeurs font corps ensemble. Ils décident, mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont dans des ligues fermées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le risque de redescendre ou de remettre en cause leur place dans la Champions League. Imaginons là 30 secondes qu'on dise à, je sais pas moi, Jean-Michel Aulas, vous devez baisser les salaires et donc laisser partir vos meilleurs joueurs. Et donc du coup, vous avez beaucoup moins de chances de revenir en Champions League. Ben, il va pas être d'accord et c'est normal. Donc c'est une déclaration d'intention qui coûte pas très cher à la FIFA, mais pour lequel elle ne peut pas vraiment agir.
Tiens, vous avez parlé de salary cap en préparant cette émission, Lionel. C'est une idée toi qui t'avais sur laquelle t'avais tiqué également, je crois.
Ouais, bien sûr. Bah, Vincent a raison sur tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui. Enfin, il a raison. En tout cas, je suis d'accord avec lui.
C'est lui l'expert, hein, Lionel. T'es gentil. Hein.
Ouais, voilà. Non, mais je peux pas dire. Il y a pas une vérité. C'est la sienne et je suis d'accord avec sa vérité. Mais c'est vrai que moi, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que Vincent a dit, je pense qu'un salary cap au bout d'un moment. Parce qu'on arrive à des salaires exorbitants, ça arrive même à jouer contre l'image des footballeurs et ça m'exaspère. Mettre un salary cap, alors tu vois, sur 3-4 joueurs grand maximum, où tu peux avoir un maximum de 4 joueurs ou les joueurs stars, et après avoir des salaires qui soient pratiquement égaux, ce qui n'empêche pas d'avoir des primes individuelles et tout ça au mérite, enfin voilà, tout ce qui existe. Mais moi, c'est quelque chose qui m'effleure l'esprit et qui, je pense, régulerait pas mal le au moins le football européen. Alors après, c'est vrai, tu peux pas mettre des salary cap partout pareil selon les confédérations. Tu peux le faire en UEFA, ça sera pas le même que
à moins que t'aies le fameux fantasme de la fameuse ligue fermée dont parlait Vincent Chaudel.
Ah ouais, voilà. Alors là tu passes dans une autre économie.
Mais pour mettre un salary cap en place, bien sûr, et t'as raison, Nico, de le dire, c'est en fait se servir de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est des ligues fermées.
Bah oui.
Dire après, s'il y a en effet le football de demain européen, c'est cette fameuse ligue fermée que tout le monde a parlé il y a quelques temps, eh ben peut-être que là, oui, tu pourrais mettre en place un salary cap, mais sinon aujourd'hui, c'est infaisable, un salary cap. Infaisable.
Bah, pour tout ce qu'a dit Vincent, effectivement.
Ben oui, exactement. Donc là, c'est encore du branlage de cerveau. Hein.
Alors, et au-delà, ouais, Nico, tu vois, au-delà du salary cap, parce que moi, c'est ce que j'en ai parlé la semaine dernière quand il y avait Bernard Caiazzo en invité. Je lui ai parlé du salary cap, mais moi, au-delà du salary cap, parce que le problème du salaire va être difficilement organisable au niveau mondial. Moi, ce que je disais surtout, c'est cette crise, elle doit nous amener à une réflexion. C'est-à-dire que ce qu'on dit déjà depuis de maintenant 5, 6, 7 ans, avec l'arrivée, on va dire, de très grands mécènes, que ce soit des particuliers ou que ce soit des États, le football, c'est une bulle spéculative. Et comme toute bulle spéculative, un jour, la bulle explose. Ça arrive dans toutes les économies de marché. On a eu ça en 2008, on a eu ça dans le passé, depuis 100 ans, on en a déjà eu 3-4 comme ça. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que ça va faire réfléchir, plutôt que de se dire comment on va faire rentrer de l'argent, comment on va faire ci, comment on va faire ça, comment on va payer nos joueurs. Moi, j'espère qu'à un moment donné, ça va forcer tout le monde à revoir les business plans des clubs professionnels. Parce que aujourd'hui, les clubs professionnels.
Alors moi, je te répondrai, il n'y a jamais eu autant d'argent de droits télé, par exemple. Aussi.
Non, mais
même si en Angleterre, ça arrête d'augmenter, voilà, il y a une désinflation, on va dire. Mais il y a aussi.
Mais les droits télé, c'est le. Alors, d'un côté, ça permet aux acteurs du football de gagner plus d'argent et c'est tant mieux pour eux. Moi, j'ai aucune jalousie par rapport à ça. Tant mieux pour eux. Moi, j'en ai bénéficié à un moment donné. Tant mieux. La problématique, c'est que aujourd'hui. Sur on va dire 98% des clubs dans le monde, vous êtes dépendant des droits télé à hauteur de 55, 60, 70%. Juste un exemple aujourd'hui en France. Si aujourd'hui en France, à un moment donné, tu as les opérateurs qui ne veulent plus payer, comment tu fais, comment le football français fait pour vivre ? Il ne peut plus vivre. Aujourd'hui, c'est ce qu'ont réussi, notamment les clubs allemands, et parce qu'on les érige souvent en modèle. Souvent, Olas parlait du Bayern, Cayazo parlait du Bayern,
La Brune
parlait de Dortmund. Mais ce qu'ont fait les clubs allemands, et c'est les seuls qui ont fait ça en Europe, c'est réduire leur dépendance aux droits télé. Ils étaient à un moment donné, il y a plusieurs années en arrière, ils étaient à 55-60%. Aujourd'hui, ils sont en dessous de ça. Aujourd'hui, ils sont en dessous de la moitié. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres sources de revenus. Et c'est là-dessus que les clubs doivent pencher, doivent avancer, oui. Parce que ils seront toujours à la merci d'un mauvais trading. Ils seront toujours à la merci d'un parce que les Allemands, ils ont eu un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le groupe Kirsch au début des années 2000 a fait faillite. Et c'est ce qui a forcé les clubs à revoir leur modèle économique.
Vincent, ouais, mais là, Willy, le souci.
Vas-y, Lionel et Vincent.
Excuse-moi, Willy, le souci actuellement, c'est que comment tu vas. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais dans les codes là, tous les clubs vont être en difficulté financière. Comment ils vont faire pour essayer de retrouver. Par exemple, des partenaires. Il y a des partenaires qui donnaient, qui ne vont plus pouvoir donner, abandonner les clubs.
Mais donc, cette crise, elle va favoriser une chose, c'est qu'il va y avoir un écart encore plus grand. Entre les grands clubs et les petits clubs. C'est ce que ça va faire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le coronavirus, le PSG, ça impacte
ceux
pas
ses
comptes.
Ceux qui vont s'en remettre, ce sont les plus grands, les plus petits.
Manchester City, ça va pas. Exactement.
Vincent Chaudel. Allez-y, Vincent.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais le football n'est que le recul de la société. Évidemment qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, les riches s'en sortent mieux que les pauvres.
Bien sûr.
Ceux qui peuvent être dans une villa. Et à l'abri de tout contact, s'en sortent mieux, etc. Mais pour revenir sur l'économie des clubs, la force du football allemand, c'est en grande partie sa capacité à remplir ses stades. Et c'est le talon d'Achille du football français. Ça fait trop longtemps que on n'arrive pas à dépasser les 21, 22 000 spectateurs de moyenne. Juste pour se rappeler, au début des années 2000, on était à 21 000 spectateurs de moyenne, comme aujourd'hui, à peu près, on doit être à 22 000, et les Allemands étaient à 26 000. Et maintenant, ils sont à plus de 40 ou 42 000 spectateurs de moyenne. Donc la vraie force du football allemand, c'est sa dimension populaire.
Oui, mais pourquoi ?
Et il y a le merchandising aussi qui est
lié
à ça.
Oui, mais pourquoi il y a tant de monde dans les stades ? C'est là aussi qu'il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'un Allemand, quand il va dans un stade de foot, il dépense en moyenne 30 euros, quand un supporter français va dans un stade de foot, il dépense 10 euros ?
Non, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas nécessairement la même relation.
Parce qu'ils ont la bière dans le sang.
Déjà, il peut boire de la bière dans son stade, et ça, c'est un autre sujet. Mais on n'a pas la même relation et le même attachement à nos clubs en France que chez nos voisins. Ça, c'est un autre débat qui est un long débat. Mais pour revenir au sujet de l'après-coronavirus pour le football, moi, je pense que ça va poser une question parce que aujourd'hui, c'est le coronavirus, mais on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir d'autres problèmes sanitaires à l'avenir si on écoute bien tout ce qu'on nous explique actuellement.
Et le dérèglement climatique, bien sûr.
Oui. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que on voit bien que les calendriers sont surchargés. Et on joue, il y a trop d'équipes, il y a trop de matchs, qui fait que dès qu'il y a le moindre incident, une inondation, du gel, un virus, et
des grèves,
ça fait perdre 2 jours, 3 semaines, 1 mois, tout est coincé. Et donc, probablement que l'avenir sera à des premières divisions, peut-être pas de 20 clubs, peut-être pas de 18, mais peut-être de 16. Et si on est sur ce genre de championnat, eh bien, on va se rendre compte qu'on va retrouver de la place. Alors, ça va être bien aussi pour les organismes. Hein. Les joueurs vont jouer un peu moins, ils seront peut-être plus performants au moment de certaines compétitions. Ça peut être bien aussi pour les diffuseurs, parce que finalement, peut-être moins de matchs à diffuser, mais des matchs qui seront probablement plus intense, plus fort, parce que si on ramenait notre Ligue 1 de 20 à 16, on aurait certainement des équipes plus fortes, plus concentrées.
Non, mais c'est, alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas aux ligues nationales de dire maintenant on ne fera que des compétitions avec ces équipes. Je veux dire, le comme tu disais tout à l'heure, le foot c'est le reflet de la société. La société c'est quoi? La société c'est la base. La société, c'est la base. C'est en termes de volume, c'est la base. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas dire à la base, donc aux ligues nationales, maintenant il va falloir faire que des championnats à 16 ou 15 équipes parce que il va falloir dégager des dates pour faire quoi? Parce que tu vois aujourd'hui ceux qui décident dans le football, c'est la FIFA, c'est l'UEFA, ce sont ceux qui sont en train de nous expliquer aujourd'hui, oui, on va faire attention à tout, on va réfléchir à tous les scénarios, ce sont les mêmes personnes qui, depuis des années, rajoutent des matchs pour faire du pognon. Et je peux pas entendre aujourd'hui de dire, c'est d'abord au championnat de France, par exemple, de dire, il y aura plus que 16 clubs de
l'élite. Non, mais quand Vincent Chaudel dit ça, Willy, il parle aussi, des instances dans leur ensemble, c'est pas que les ligues.
C'est d'abord réfléchir à moins de matchs avec les équipes, moins de matchs de Coupe d'Europe, parce que je suis désolé, mais des matchs de Coupe d'Europe, il y en a trop. C'est moins de matchs peut-être avec les équipes nationales. C'est interdire. Alors là, la France, elle l'a fait. Il n'y en aura plus qu'une à partir de l'année prochaine. Il n'y aura plus qu'une seule coupe nationale par pays. Il faut arrêter avec les coupes de la Ligue, la coupe Carlsberg, la coupe du Roi, la coupe de la Reine, la coupe de la Princesse. C'est les mêmes. Moi, ce que je regrette, c'est aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui essayent de nous dire on va trouver des solutions, on va faire ci, on va faire ça. C'est les mêmes personnes qui nous ont conduits dans cette situation. Alors c'est pas leur faute le coronavirus, mais c'est eux qui, en surchargeant les compétitions, c'est eux qui ont créé cette situation aujourd'hui.
Très très vite Vincent, parce que j'aimerais vous entendre après sur les propos de Raorès aussi, le boss de Mediapro.
Juste à titre d'information, aujourd'hui sur le calendrier, au moment où on se parle, il reste 13 matchs à placer en France, quand il en reste 11 en Allemagne. Et puis 12 en Angleterre, 12 en Espagne, 14 en Italie. L'Allemagne, elle est à 18. Elle a donc moins de matchs à placer, même si elle a encore des matchs de coupe à jouer. Elle a un peu moins de matchs à placer, et ça veut dire que ça sera un peu plus facile pour elle de les placer au moment du retour à la compétition.
Que tu dois faire 12 matchs en un mois et demi, ou que tu dois en faire 14. De toute façon, ça sera une purée de petits points.
Alors, une semaine de plus.
Vincent Chaudel est en direct avec nous dans l'After, économiste du sport. J'aimerais aussi vous entendre, parce que ça va dans le prolongement finalement de notre conversation. Raume Raorès, qui est le patron de Mediapro, qui détient les droits de la Ligue 1 en Espagne et d'une bonne partie de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, a déclaré sur une radio espagnole, catalane, Racuno, « Le plus important est de terminer la saison, pas de savoir quand commencera la prochaine. Si on ne termine pas, on perdra 30% des recettes. Le football européen perdra plus de 7 milliards d'euros. Ça n'est pas possible. Si tout va bien, les compétitions reprendront mi-juin. » même si on joue tous les trois jours. Cette déclaration, elle démontre bien, Vincent Chaudel, à quel point aujourd'hui les droits télé sont importants. C'est ce que disait Willy tout à l'heure. Il y a une grosse dépendance finalement vis-à-vis des clubs par rapport aux droits télé, et les diffuseurs ont une vraie pression aussi par rapport à ça.
Bien sûr. Là, une information est tombée aujourd'hui où Canal+ ne
refuserait de payer les matchs qui restent à jouer.
Mais faut se mettre un peu à leur place. Ils ont aujourd'hui eu 75% de ce qu'ils ont acheté. Et l'année prochaine, en plus, ce ne sont plus eux les diffuseurs. Il est hors de question, et on peut le comprendre, qu'ils payent 100% pour avoir 75% de contenu à diffuser. C'est pour ça que, même si pour nous, amateurs de football, des matchs à huis clos, c'est frustrant, pour les diffuseurs, c'est pas nécessairement une mauvaise opération en termes d'audience, parce que les gens qui ne peuvent pas aller au stade, du coup, regardent à la télé. Et c'est surtout qu'ils ont un contenu à mettre à l'antenne. Aujourd'hui, sur vos canaux RMC Sport, l'absence de match fait que vous devez tourner en rond avec des contenus qui existent déjà. Donc évidemment que c'est important pour les diffuseurs que les compétitions aillent au bout. Quand Monsieur Rorès s'exprime, il s'exprime avant tout pour terminer la saison par rapport à l'Espagne, parce qu'il n'a pas encore les droits en France, mais c'est la même logique et on comprend tout à fait. Et donc aujourd'hui, coûte que coûte, les championnats domestiques vont faire en sorte de terminer leur match. Peut-être pas les coupes, parce que les coupes, ce sont les compétitions où les droits sont les plus faibles. Mais tous les championnats ont intérêt à finir. Là, si on ne termine pas la première ligue, c'est plus d'1 milliard d'euros de manque à gagner. Si on ne termine pas la Ligue 1, c'est plus de 400 millions d'euros de manque à gagner. Donc évidemment il faut trouver des solutions.
Vincent, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité par rapport, comme on parlait des contrats tout à l'heure, où il faudrait aligner justement qu'il y ait une harmonisation entre les fins de contrat et la fin de championnat. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire la même chose pour le diffuseur, c'est-à-dire que Canal+, qui terminerait plus tard, aurait les droits jusqu'à la fin, et ensuite de toute façon, quel que soit le diffuseur de l'année d'après, étant donné qu'il y aura autant de matchs, ils seront plus regroupés, mais les diffusions seront les mêmes. Donc il ne perdra pas d'argent. Et en tout cas, il ne perdra pas de match.
Oui, mais imagine que le championnat ne se finisse pas. C'est ça le problème qu'a Canal.
Non, le problème, ouais. C'est juste...
On part dans l'hypothèse de toute façon. Moi, je pense, et tout le monde va vers cette hypothèse-là, il faut absolument finir
ce que se dit Canal+, c'est parce que c'est une possibilité aussi. D'ailleurs, en Espagne, ils commencent à y réfléchir.
S'il arrête à
la Ligue, ça fait partie aussi des possibilités qui sont obligées de prendre en considération. Imagine que Canal paye la douzaine de matchs qui restent à jouer, mais que les matchs finalement ne viennent pas être joués, Canal se sentira floué, forcément.
Bien évidemment, on part pas apparemment le football, même je dirais
presque
mondial.
Oui, mais on sait pas. Comme on disait tout à l'heure,
et Vincent nous l'a dit. Malheureusement, bien sûr, on sait
pas.
Rien.
Oui, mais Nico, je trouve que les propos du patron de, je me rappelle
plus son nom,
de Mediapro. Moi, je les trouve. Comment dire ? Je veux pas dire dangereux, c'est pas ça. Mais je me dis, attends, il veut payer, donc il veut payer. C'est lui qui va diffuser le football en France pendant les 4 prochaines années.
Et c'est lui qui diffuse la Ligue 1 déjà.
Voilà. Je suis persuadé que l'objectif pour lui, c'est de diffuser le meilleur spectacle possible. Je suppose.
Ouais.
Et qu'il est en train de nous expliquer que peu importe si les joueurs jouent tous les 3 jours, c'est important de finir. Donc lui, qui est un spécialiste ou qui est un diffuseur, est en train de dire, peu importe si les joueurs s'arrêtent là pendant 3 mois, ils ne peuvent plus jouer au foot, dès qu'ils reprennent, il faut qu'ils jouent tous les 3 jours. Donc ça va faire des spectacles horribles à regarder, mais c'est pas grave parce qu'on les diffuse quand même. Moi, je suis inquiet que quelqu'un qui soit patron d'une grande chaîne comme ça, qui soit, on va dire que c'est lui qui va diffuser un spectacle, donc qui va aussi habiller le spectacle, s'en foute que la qualité qu'un autre éventuellement, un de ses concurrents va diffuser, que la qualité soit pourrie. Moi, j'ai pas un bon goût par rapport à ça.
Vincent, comment vous l'expliquez ça justement? C'est quoi? Il a peur de devoir rembourser ses abonnements? C'est quoi?
Non, c'est ouf. C'est que oui, il peut y avoir le sujet de l'abonnement, mais c'est surtout d'avoir ce qu'il a acheté. C'est-à-dire vous devez, parce que là on parle du sport, mais on pourrait très bien imaginer que c'est un portefeuille de films à diffuser. Vous achetez 100 films, on vous en livre 75. Vous voulez avoir les 25 restants. Donc ça c'est quelque chose qui est logique. Je comprends tout à fait le point de vue sportif et humain de Willy, mais là on est dans une approche comme la NBA, où les joueurs de basket en saison régulière vont pouvoir jouer tous les 2 ou 3 jours en permanence et traverser les États-Unis de long en large. On est dans cette logique-là. Alors la solution dans ces cas-là, c'est d'élargir les effectifs et de les faire tourner. Je pense que l'UEFA va vouloir sauver ses qualifications et sa National League, sa Ligue des Nations. La FIFA va vouloir conserver ses qualifications pour la Coupe du Monde, et donc on va pas réduire le nombre de matchs des équipes nationales, par exemple. Alors on va les concentrer, et probablement que Didier Deschamps devra regrouper, avoir un groupe élargi, parce qu'il va jouer peut-être 3 ou 4 matchs en 10 jours. Et ça risque de se reproduire plusieurs
mais
fois.
Mais c'est alors, surtout, tu parlais, de la NBA. Le football, malheureusement, en Europe notamment, en fait, il a la même organisation. Alors, même si les compétitions sont ouvertes, c'est pas des ligues fermées, ils ont la même approche que l'approche aux États-Unis. C'est-à-dire que le foot, moi je parle surtout pour le foot européen, le foot ailleurs je le connais pas trop, mais le foot européen, c'est un foot qui vit à crédit. C'est-à-dire qui est toujours dans l'anticipation des droits qu'ils vont recevoir, des rentrées qu'ils vont recevoir. C'est un secteur d'activité qui est toujours à crédit. Et quand tu le vois, aux États-Unis, alors je dis pas de manière régulière, heureusement pour les gens qui habitent là-bas, mais de vivre à crédit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois être en capacité de rembourser tes crédits. Et que c'est comme des gens qui ont beaucoup de crédits aux États-Unis, qui ont 25 cartes de crédit et qui du jour au lendemain perdent leur travail.
Oui, mais
c'est exactement la même chose.
Pour finir, Vincent Chaudel.
Le football a une addiction à ses droits télé, à ses sponsors. Et donc, la plupart des clubs aujourd'hui ont besoin que les compétitions se terminent pour que tout le monde paye, parce que s'ils ne payent pas, ils se retrouvent en situation très délicate. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il n'y a pas de perte d'argent, il y a des problèmes de trésorerie. Mais si les compétitions ne se terminent pas, il y aura des pertes. Et ce seront des pertes qui seront lourdes. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est ce qu'on veut faire et terminer là-dessus, parce que je crois aussi que dans les propositions il y a un fonds de dotation pour les footballeurs qui auraient des problèmes de rémunération. En NBA, il y a eu beaucoup de joueurs millionnaires qui se retrouvent après quasiment être SDF. On se dit mais comment ils font avoir gagné autant d'argent et puis après ne plus en avoir. Parce qu'à un moment donné, plus je gagne, plus je dépense. Et les clubs aujourd'hui là qui reçoivent énormément d'argent ont aligné leurs dépenses sur leur rentrée d'argent théorique. Si l'argent ne rentre pas, ils sont coincés.
Vincent Chaudel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bon confinement à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.
Salut Vincent.
Merci
Vincent, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Dans quelques instants, on vous attend au 32-16. Tiens, vous savez qu'hier, on a perdu Michel Hidalgo. Michel Hidalgo nous a quittés. Lui, vainqueur de l'Euro 84 avec l'équipe de France. Demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82. On vous pose la question, Lionel, Willy et Jérôme. Quelle équipe de France vous a le plus fait rêver? Laquelle vous a le plus déçu? On vous pose la question également sur le hashtag RMC Live. Et au 32-16, on en parle juste après ça.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Willy Sagnol, Jérôme Roten et Lionel Charbonnier. Tiens, on vous rappelle que face à l'épidémie du Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous lançons un appel aux dons ensemble avec les acteurs du sport. Soutenons la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour donner et aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr. Envoyez don DON par SMS au 92-111 pour donner 5 euros. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'RMC sur l'hashtag Solidarité Hôpitaux. Triste nouvelle qui est venue hier, la disparition de Michel Hidalgo, lui qui a été sélectionneur de l'équipe de France entre 1976 et 1984, lui qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82, vainqueur de l'Euro 84. On vous pose cette question sur le hashtag RMC Live. Également, on vous attend au 32-16 pour y répondre. Quelle équipe de France vous a le plus fait rêver, plus fait vibrer, laquelle vous a le plus déçu? Tiens, Jérôme, on va commencer par toi. Quelle équipe de France, toi? Quelle année, quelle génération t'as le plus fait kiffer, mon Jérôme?
Écoute, on en parlait hier. Moi, les premiers souvenirs vraiment de c'est la Coupe du Monde 86 et cette génération-là, c'était le sélectionneur, c'était Henri Michel. Elle m'a conforté dans mon rêve, c'est-à-dire de devenir un jour footballeur professionnel. Donc, je me suis régalé tout au long de la compétition. Il y a ce match qu'on a revu, qui a été diffusé là sur l'équipe 21, France-Brésil, ce fameux quart de finale. Voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Et puis je trouve que pour après avoir constaté l'évolution du foot, il y a,
il y avait beaucoup de choses et moi elle m'a fait vibrer cette équipe avec des joueurs très talentueux, mais bon après c'est parce que j'étais jeune, passionné, donc c'est pour ça que je reste focalisé là-dessus, parce que derrière il y a eu des très belles générations et j'ai eu la chance en plus d'y jouer après en équipe de France, donc il y a vraiment cette en 2000 bah Willy est bien placé pour en parler, mais en 2000 la génération elle est fantastique aussi quoi, la coupe d'Europe, le championnat d'Europe reste pour tout passionné de foot vraiment une référence, ouais. Donc voilà, ces deux dates, l'Euro 2000 et la génération 86 là, magnifique.
Lionel, l'équipe de France qui t'a plus fait vibrer, ouais.
Je suis deux ans, je suis un petit peu d'accord avec Jérôme, sauf que moi je serai deux ans avant de chaque côté, c'est-à-dire cette première équipe de 82 de Michel Hidalgo, 82-84 avec ses matchs fabuleux, tout, pour les mêmes raisons que Jérôme, parce que c'est cette équipe qui m'a fait virer, qui m'a fait vibrer, c'est cette équipe qui m'a donné l'envie vraiment de devenir d'un jour aller en équipe de France et de travailler pour ça. J'arrivais à m'identifier à ces joueurs, à ce qu'ils étaient, à tout ce qui quand ils couraient, quand dans les efforts qu'ils faisaient, dans les retournements de situation, quand ils oubliaient les maillots, c'est pas grave, allez on va jouer avec d'autres maillots machin. Je me souviens qui c'était contre quelle équipe là où ils avaient pas les maillots
en Hongrie,
ouais. Contre la Hongrie, voilà. Et malgré tout, bah voilà, tu remportes le match. J'adorais ces joueurs. J'adorais tout ce qu'ils mettaient. Puis après, c'est 98 pour moi. Je suis obligé,
forcément,
parce que j'ai vu ce que c'était, des vrais mecs, les meilleurs au monde au poste. Hein, individuellement, tu les prenais pratiquement dans toutes les lignes. Il y avait le numéro un mondial. C'était et puis des mecs fabuleux, moi qui m'ont fait vivre, qui m'ont appris le football. Tu sais, j'arrivais d'Auxerre où fallait faire attention à tout le monde, fallait une concentration énorme et tout. Alors je dis pas qu'il y avait pas de concentration en 98, mais il y avait un espèce de détachement par rapport à cette Coupe du Monde où tout le monde nous attendait et tout. Et tu vois le premier match où on va faire ce premier match, et celui-là m'a fait vibrer. C'est celui-là, tu vois, vraiment contre l'Afrique du Sud, où j'ai vu des mecs, des falabras, des mecs qui étaient complètement à l'envers et qui étaient capables de renverser des montagnes en même temps, des fous furieux. Et c'est ça, c'était des artistes. Et 82-98, c'était des vrais artistes. Et on a été champion 98 grâce à 82-84.
Willy.
On s'est pas concerté avant, mais moi je suis un petit peu comme tout le monde, c'est Coupe du Monde 82, Euro 84 et Coupe du Monde 86, parce que c'est les premiers souvenirs. C'était avec mon père sur le canapé à manger des tablettes de chocolat en regardant le match. Et puis moi quand j'étais gamin, j'avais des vraies idoles. Je sais pas aujourd'hui les jeunes, le rapport qu'ils ont avec le mot idole, mais moi par exemple, j'avais un mec, c'était Jean Tigana. Pour moi, c'était une idole absolue. Et le jour, je t'explique pas, Nico, le jour où je suis joueur à Saint-Étienne et que Monaco m'appelle pour me faire signer à Monaco et que l'entraîneur c'est Jean Tigana, j'étais comme la petite jeune qui va son premier bal. Hein.
C'était. Pourquoi c'était ton idole, Willy?
Parce que il y avait une.
Parce que tu parlais d'avant, non, nous avant et les gamins maintenant. Je suis sûr qu'on s'identifie plus
non,
pareil.
C'est pas pareil. C'est tout simplement pour une seule chose, c'est que aujourd'hui. Les joueurs de foot, alors c'est pas leur faute, hein. C'est le monde du foot qui a fait ça. Aujourd'hui, ils sont devenus des produits marketing que tu vends à droite, que tu vends à gauche, que tu mets tous les jours à la télé, dans les journaux, à la radio.
Oui, mais c'est pas quand même des idoles, Willy.
Oui, non, mais bien sûr.
Ouais, attends, les curseurs sont plus les mêmes.
Mais si tu veux, c'est pas les mêmes raisons. Il y a toujours le côté idole, je suis sûr, mais c'est plus les mêmes raisons. Nous aussi, ce qui faisait qu'on idolâtrait certaines personnes, c'était qu'il y avait une rareté dans la possibilité de voir ces gens-là.
Ouais. Et les matchs étaient moins télévisés aussi, etc. Et
t'avais les matchs d'équipe de France, tu devais avoir la finale de la Coupe de France, je crois. Ouais. Et puis c'est tout.
Ouais.
C'est tout. Et le reste, c'était, moi je me rappelle, le reste c'était Eugène Saccomano radio. À la radio.
Ouais. Tiens, on va accueillir Ahmed, les gars, qui nous a appelé au 32-16, qui va aussi lui répondre à cette question. Salut Ahmed.
Bonjour, bonsoir.
Ça va Ahmed,
bonsoir, Ahmed. Salut Ahmed.
Ah désolé, ben je suis pas confiné moi.
Tu travailles toi, tu fais quoi Ahmed?
Ben en fait je fais des livraisons de pharmacie donc chaque nuit.
Ah oui, donc ouais. Donc,
courage à toi, merci à toi, Ahmed.
Oh non, c'est rien, c'est rien. Ben, juste pour revenir à la question, moi, en fait, venant d'Afrique, je suis arrivé en France en 98, donc juste après l'épopée de l'équipe de France.
Oui.
Et en fait, en Afrique, à cette époque-là, nous, on n'avait pas beaucoup de télé, donc à part la radio. Donc, l'équipe qui m'a vraiment marqué, c'est 82-86. Surtout la demi-finale, si je ne me trompe pas, de souvenirs. Ben, j'étais très jeune, j'avais 7-8 ans. C'est France-Italie. France-Brésil, pardon. Oui. Donc, par contre, l'équipe flop, c'est en 2002, en fait.
À toi, c'est 2002, le pire souvenir. La pire, la plus grosse déception de l'équipe de France. Ok.
C'est
Corée du Sud, Japon.
Je crois que c'est en
Corée du Sud, Japon. Non, Corée du Sud, Japon, 2002.
D'accord, voilà. Autant pour moi. Ouais. Voilà. Et je reviens juste une dernière fois, si je peux me permettre.
Vas-y.
Ce qu'il disait, Willy Cellul. Bonsoir, Willy. C'est bonsoir, vrai que, bon, moi, je suis un peu ancien aussi. Bon, je suis pas si vieux que ça. J'ai que 42 piges, mais je sais qu'à l'époque, quand on regardait téléfoot et tout, parce que nous, on avait des rediffusions sur TV5 en Afrique. Donc, les joueurs comme Tigana, Gireste, c'était des idoles pour nous, en fait. On faisait en sorte de les ressembler, en fait. Mais par contre, les générations de maintenant, j'ai un peu du mal. Je suis un peu vieux.
Ahmed, merci de nous avoir appelé. Ouais. Bon courage à toi, Ahmed. À bientôt.
C'est pas ce qu'il vaut.
Merci, Ahmed. Au revoir.
Tiens, on va accueillir Tariq. Lui aussi nous a appelé pour parler des équipes de France. Salut, Tariq.
Bonsoir tout le monde.
Ça va, Tariq?
Salut, Tariq.
Ça va. Je vous remercie, vous.
Ouais, merci, ça va, Tariq. Ça roule. On est là. Hein. On essaye nous aussi de vous changer un peu les idées, de parler un peu de foot. Tiens, c'est quoi,
ouais,
toi?
C'est quoi, toi,
la génération où, je sais pas, l'équipe de France qui t'a le plus déçu? Alors, Ahmed vient de nous dire que c'était 2002. Toi, c'est quoi?
Celle qui m'a le plus déçu, je pense que je vais faire l'unanimité.
Je pense aussi.
Ça va être 2010.
Ouais, on est d'accord.
Bravo.
Sans déconner. Et celle qui t'a le plus fait vibrer, tiens, c'est laquelle?
Et celle qui m'a fait le plus vibrer et rêver, c'est celle de 2000. Parce que pendant ce tour-là, je trouve qu'il y a eu des matchs d'anthologie, vraiment.
Ouais, c'est vrai.
Que ça soit demi-finale, la finale.
Surtout la demi, hein, côté dramatique.
Ouais, c'était pour lui, ça, c'était un vol.
Ouais. Non, c'était vraiment des matchs d'anthologie un suspense comme on n'a pas retrouvé depuis, même avec le but en or aussi, ce truc où on te casse le délire d'un seul coup, je trouvais ça extraordinaire, et avec un Zidane qui marchait sur l'eau plus qu'en 2006, moi je trouve, et même l'équipe de France à cette époque-là, il y avait des patrons vraiment le 11 titulaire ou même le groupe en général, il y avait des patrons dans chaque poste. Moi, c'est l'équipe qui m'a le plus fait vibrer et rêver.
Juste, oui, c'est vrai qu'avec Ahmed, il l'avait souligné, en 2002, ça avait été une grosse déception. Tu faisais partie de cette équipe, toi, en 2002. Oui. Alors, t'as pas joué, je crois, d'ailleurs, si?
Non.
C'est vrai que ça avait été. Je me souviens d'ailleurs de la campagne de pub d'Adidas.
Il y a là le problème.
Avec les deux étoiles. C'était incroyable.
S'il y avait eu qu'Adidas.
Incroyable, non?
Non, mais c'est ça a été. Alors moi, c'était ma première compétition avec l'équipe de France, parce que je suis arrivé le premier match après l'Euro 2000.
C'est là qu'on s'est connus, Willy. Hein,
c'est là qu'on s'est.
Semble.
Non. Eh non.
Il me semble.
Nous, on le sait où on s'est connus.
Ouais, non, mais ça, on veut pas savoir, nous, les mecs.
Ouais, on veut pas.
Je sais qu'il y avait une bière entre nous deux, ça.
Exactement. Non, mais faut le savoir. Avec Lionel, la première fois. Avec Lionel, la première fois, on a beaucoup échangé. Autour de 2-3 bières. C'était au Maroc.
Au Maroc.
Ouais, bah, il y a pas que 2-3.
Et non, mais c'est vrai que 2002. Moi, alors, en tant que jeune joueur, j'avais les yeux grands écartés, mais j'étais. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais au Bayern. Et c'est vrai que j'étais un petit peu. Alors, je fermais ma gueule, pas j'étais tout nouveau, mais c'est vrai que je trouvais que c'était pas la. On avait l'impression que les joueurs n'avaient plus faim, plus cette rage, parce que pour gagner une Coupe du Monde, il faut avoir une rage, pour aller loin en Coupe du Monde, il faut avoir un peu de colère, il faut avoir de l'ego, il faut avoir de l'énergie positive. Et je pense que c'est une génération qui, en 2002, avait, entre 98 et 2000, avait connu tellement de choses, que psychologiquement, il y avait, les ressorts étaient un peu cassés, malheureusement.
Oh, merci Tariq qui nous appelle. Vas-y, Jérôme.
C'est marrant ce que tu dis, Willy, parce que moi je suis arrivé après, donc 2002, juste après, et donc l'Euro 2004 au Portugal.
Oui, au Portugal, ouais, pardon.
Voilà,
avec la Grèce qui gagne. Ouais.
J'ai ressenti la même chose que toi t'as ressenti en 2002 en fait. C'est un groupe qui était incroyable parce qu'il y avait une équipe sensationnelle vraiment. Et tu te dis quand ça devient dur là, t'es dans l'adversité, il faut passer le cap et tout. Et ben il manquait quelque chose. Je pense que
il y a plus le truc.
Ce groupe avait trop gagné avant. Ben bon. Écoute, c'est quand même remarquable ce qu'ils avaient fait, mais en 2004, il y avait aussi une cassure à ce niveau-là.
On remercie Tariq, en tout cas, qui nous a appelé au 32-16. Je m'emballe, moi, je sais pas ce que j'allais dire. Hein. En tout cas, nos drôles de dames nous attendent. Elles seront là dans quelques instants. On a un quiz qui nous attend à la fin de cet after. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà au 32-16. Nos drôles de dames qui vont nous exposer, nous présenter un derby dans leur pays méconnu et vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi ce derby. À tout de suite.
RMC. L'After Foot.